Et bonjour à toutes et tous dans l'émission de La Forêt des Possibles sur Radio Galère. Nous sommes le samedi 25 avril 2026 pour une émission un peu spéciale. Un peu spéciale car il s'agit d'enregistrer un plateau radio. Un plateau radio sur la low-tech, suite à la projection d'un film haut en couleur et qui réchauffe les cœurs. Voyage vers de nouveaux imaginaires. Ce plateau radio s'inscrit dans la riche et foisonnante programmation des 72 heures de l'écologie de la Cité des Transitions, à Marseille et au Bagne. Nous enregistrons depuis un des lieux totems de ce festival, la friche de la Belle de Mai, et plus précisément, son labo friche, haut lieu marseillais où faire émerger de nouveaux imaginaires et solutions de transition qui, depuis les marges de la société, cherchent à faire advenir ce qui fera le centre de demain. Ces projets sont d'ailleurs souvent incubés dans la pépinière qu'est Intermade, devenue Combinerie, également partenaire de l'événement. La Forêt des Possibles, c'est l'émission qui donne la parole aux actrices et aux acteurs des transitions écologiques et sociales du pays marseillais. Mais c'est bien plus que cela, sinon ce ne serait pas une forêt. C'est aussi tout un écosystème de projets pour faire advenir une société plus sobre, joyeuse et solidaire. Il y a quelques années, ce projet avait commencé avec un wiki, l'arbre des imaginaires, qui met en lien et en cohérence des milliers de travaux, des œuvres d'art, des pistes de solutions et des actrices du changement autour de l'allégorie de l'arbre pour faire émerger de nouveaux imaginaires de société durable, mais aussi proposer un système alternatif complet. Et en cela, ça me touche beaucoup quand on regarde ce film.
Car oui, comme le film d'Antoine de Théobald le montre si bien, dans un monde capitaliste, consumériste et extractiviste, tout est lié. Et à vouloir apporter des solutions adaptées à la racine du danger que fait planer le dépassement des limites planétaires, ce ne sont pas uniquement des solutions techniques qu'il s'agit de promouvoir. C'est aussi toute une approche sociale, économique et politique qui est entièrement à repenser pour ralentir tout en redonnant du pouvoir d'agir. Et c'est ce qui se trouve autour de la low-tech qui désigne des catégories techniques durables, simples, appropriables, résilientes, produisant des objets facilement réparables et adaptables. Alors, pour en parler ce matin, autour de ce plateau radio, nous recevons Théobald Dubreuil et Antoine Preneux, qui, lors de leur formation à l'École des Mines de Paris, sont partis à vélo à la rencontre de projets low-tech à travers l'Europe et qui l'ont magnifié à travers le film Voyage vers de nouveaux imaginaires, que dans la salle nous avons vu, mais que nos auditeuristes... Nous les invitons à les découvrir au plus vite. Marjolaine Bray, j'espère que tu nous entends, Marjolaine, fondatrice d'Eco, Low-Tech et Réfugiée, qui viendra tordre le cou à certains a priori au sujet de la low-tech et de ses publics, et nous en reparlerons. Marjolaine, est-ce que tu nous entends? 1, 2, 1, 2. Alors, je l'espère. On continue. Et enfin, Paul Juan, ingénieur engagé à la fois au Low-Tech Lab de Marseille et à Merma, avec Lucas qui est au premier rang, structure marseillaise qui adresse respectivement les sujets de low-tech aux citoyens et aux entreprises. Citoyens, entreprises, il manque un dernier acteur pour compléter le triangle de l'inaction, ce sont les mondes institutionnels et politiques, car le triangle de l'inaction, c'est l'inertie du système qui nous bloque pour nous adapter avec efficacité et justice aux bouleversements environnementaux et sociaux, ainsi qu'aux contractions de ressources en cours, avec toutes les tensions que cela engendre. Alors, au cours de cette émission, tâchons de procéder par méthode pour chercher à dépasser ce triangle de l'inaction et rendre possible ces nouveaux imaginaires. Pour cela, nous allons gravir les échelles et chercher des solutions concrètes du moi au nous et du nous au tout. Et donc, pour commencer, nous allons ouvrir un premier panel qui est celui un peu du moi sur les leviers d'action personnels. Et donc, je vais vous inviter à prendre la parole respectivement et, dans un premier temps, présenter pourquoi vous vous êtes engagé vers la low-tech et quels ont été vos parcours et les raisons de vos engagements. Et je vous rejoins désormais pour commencer à proprement parler ce plateau radio. Merci messieurs, merci Marjolaine. Est-ce que quelqu'un veut commencer?
Je peux me jeter à l'eau. Merci Marin pour l'introduction, merci pour ton invitation. Théobald qui est en train de parler pour ceux qui nous écoutent. Moi je suis tombé dans la low-tech, j'étais en école d'ingénieur, enfin plutôt en prépa pour préparer mon école d'ingénieur. Et j'ai regardé un documentaire qui a été fait par Corentin de Châtel-Perron, qui est un petit peu la figure médiatique du Low-Tech Lab. Et il partait 4 mois sur une biosphère, un radeau en fait, au milieu de la mer, pour essayer de voir s'il pouvait s'auto-suffire trouver comment nourrir, comment se nourrir, etc. Et il faisait toute une expérience scientifique autour de ça pour voir si son corps réagissait correctement à cet environnement-là. Donc c'est comme ça que pour la première fois, j'ai entendu parler de low-tech. J'ai trouvé ça hyper sympa, le côté bricoleur de l'ingénieur, avec quand même tout l'aspect scientifique qui était derrière. Et derrière, j'ai construit mon premier four solaire. Pas du tout four solaire. J'ai produit mon frigo du désert. Pas du tout la même chose. Je trouvais ça hyper chouette. Et c'est après qu'on s'est dit, bon, bah, go, il faut qu'on aille explorer un petit peu plus ce que ça veut dire.
Merci Théobald. Je laisse la parole tout de suite à Antoine pour continuer. Est-ce que ton histoire ressemble à celle de Théobald? Est-ce qu'elle est différente?
Moi, mon histoire, elle est greffée, on va dire, à celle de Théobald, parce que j'avais une sensibilité particulière aux enjeux de transition écologique à partir du lycée, puis ça s'est concrétisé aussi en école d'ingénieur. Puis au moment où on a voulu partir avec Théo faire ce voyage, on réfléchissait à quel était le prisme qu'on voulait donner, quelle était la thématique qu'on voulait traiter. Et c'est Théo qui m'a proposé de parler de low-tech. Et moi, j'ai tout de suite adhéré, parce que ça parlait à mon esprit un peu bricoleur, ça me donnait envie. Et puis en creusant, on a vu qu'il y avait tout un aspect systémique qui m'a beaucoup plu. Et donc, c'est comme ça un peu que je suis tombé dans les sujets de low-tech.
Merci Antoine. Je continue le tour de table. Paul, ingénieur également.
Ouais. Bonjour à tous. Merci Marin pour l'invitation. Moi, mon histoire, elle est un peu similaire à celle de Théobald et Antoine, en fait. Déjà, de base, je suis un peu un amoureux de la nature, la mer, la montagne, les animaux et tout ce qui compose la nature. Ensuite, j'ai fait des études d'ingénieur. Et lors de ces études, on nous parlait beaucoup d'optimisation des systèmes, de remplacer les humains par des machines pour maximiser le profit, etc. Et du coup... Bon, je ne me retrouvais pas du tout là-dedans et j'ai fait un peu comme vous. Je suis parti avec un ami en train, on a traversé l'Europe, donc de Lisbonne à Istanbul. Un moyen de transport un peu moins low-tech. Mais voilà, en revenant de cette césure, j'ai fait des études en éco-conception. Et la low-tech est une des solutions de l'éco-conception qui m'a le plus parlé parce qu'elle a vraiment un côté social et tourné vers l'humain. En plus de ce côté environnemental.
Voilà. Merci, Paul. Marjolaine, tu viens d'apparaître en grand écran, écran absolument gigantesque dans la salle. Tout le monde te voit. J'espère que tu nous entends.
Oui, je vous entends.
Ah,
bonjour
super.
Tout le monde.
Et nous, on t'entend également. Et donc, si tu n'avais pas entendu ma première question, je vais la reformuler. Toi, personnellement, qu'est-ce qui t'a amené à t'engager sur les sujets de low-tech? Quel est ton parcours?
Je me suis toujours engagée pour la transition sociétale, très jeune. J'ai fait le choix d'en faire aussi mes études, mais avec une dimension plutôt économique, parce que pour moi, les problèmes dans le monde sont davantage liés au partage de l'accès à la nourriture, par exemple, plutôt que des questions techniques de production alimentaire. J'ai travaillé du coup 20 ans dans la RSE et la transition sociétale dans l'associatif et aussi en politique. Notamment 10 ans à l'étranger, et je me suis intéressée à la low-tech avant que le concept existe. J'ai contribué à développer ce concept et j'ai notamment été la personne qui a initié l'accompagnement des communautés low-tech lab à l'échelle nationale, et notamment les low-tech explorers qui sont des personnes qui partent voyager à découvrir des low-tech comme Antoine Théobald. Et je suis actrice à l'échelle de Marseille à travers le projet low-tech et réfugiés que l'on porte avec l'association ECHO depuis maintenant une dizaine d'années.
Merci Marjolaine. Je vais continuer avec ma deuxième question et je vais mettre les pieds dans le plat assez rapidement et un peu nous regarder nous-mêmes sur ce plateau. Il y a un certain manque de mixité ce matin sur le plateau et on en a conscience. Donc, comme on va aussi ouvrir la porte à la discussion après, ça peut être une des questions qui est de savoir, quand on parle de low-tech, on imagine souvent Philippe Biwix, Jean-Marc Jancovici, le Shift Project, des conférences un peu de nerd parfois sur Thinkerview. Est-ce que la low-tech est nécessairement vouée à s'adresser à des jeunes, à des hommes qui sont plutôt blancs avec des études qui sont élevées, ou est-ce que bah, justement ça va permettre de toucher un public hyper varié? J'aimerais qu'on puisse s'interroger sur qui ça touche et comment on embarque.
Marjolaine,
tu veux commencer, Marjolaine?
Oui. En effet, la démarche low-tech, elle apporte quelque chose de fort par rapport à d'autres démarches de transition écologique, et c'est ça qui fait les complémentarités des différentes démarches de la transition, c'est qu'elle est vraiment orientée vers le renforcement de la résilience et le renforcement du pouvoir d'agir des personnes. Donc, par définition, la démarche low-tech est extrêmement inclusive, mixte et accessible. C'est intrinsèque à ce qu'on peut définir être une démarche low-tech ou un système low-tech. Donc, par essence, ça ne peut pas être réservé à une minorité de personnes qui auraient un certain niveau de diplôme, de formation, et qui, du coup, rendrait la low-tech moins accessible. Après, comment faire pour qu'aujourd'hui, le sujet de la low-tech ne soit pas uniquement un sujet d'hommes, jeunes hommes ingénieurs? C'est peut-être aussi justement en mettant des rôles modèles, en donnant à voir des personnes qui font de la low-tech, qui n'utilisent pas forcément le terme de low-tech, pour qui le terme low-tech n'est pas forcément compris ou partagé ou utilisé, mais qui le pratiquent. Et notamment avec low-tech et réfugiés, on expérimente le fait d'avoir non seulement une association qui est composée à 50% de femmes, on a vraiment une parité parfaite au sein de l'association sur près de 1000 bénévoles, et aussi du coup des personnes qui sont actrices, qui sont parfois analphabètes, qui n'ont aucune formation académique et qui sont d'une ingéniosité extrême.
Merci Marjolaine. Donc tu as parlé d'une peut-être des mots qu'on emploie. Antoine, Théobald, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez aussi ou pas?
Oui, c'est quelque chose qui, effectivement, tu le remarques, on est tous les trois là, des ingénieurs sur le plateau. Et je pense que ça s'explique aussi en partie dans le sens où les low-tech en France ont été théorisées par des ingénieurs. Ça s'est pas mal posé au début sur du technocritisme. Et ça a été pris par les ingénieurs, et donc c'est des ingénieurs ensuite qui s'en sont appropriés parce qu'ils avaient des figures de référence pour parler de ces sujets-là. Et donc je rejoins ce que dit Marjolaine, ce qui manque c'est des figures de référence qui soient autres que des ingénieurs. Et j'ai l'impression aussi que dans la low-tech, il y a quand même pas mal de questions finalement de conception, et donc c'est plus facile au début pour des ingénieurs de se l'approprier parce qu'on utilise leur vocabulaire. Et donc pour ça, ça rend la chose, c'est la conséquence de ça, quoi. Maintenant, effectivement, comme dit Marjolaine, il faut que ça soit approprié par d'autres publics. Et moi, je pense à un projet à Rouen où le but était de faire entrer la low-tech dans des ESAT, donc des établissements de réinsertion de travailleurs handicapés par le travail, et de les rendre, eux, acteurs de la low-tech. Et donc je pense qu'il y a plein de projets comme ça qui émergent un peu partout. Tout l'enjeu est de mettre la lumière sur ces projets et de leur donner la parole pour qu'ils puissent s'exprimer comme Marjolaine le disait.
Merci Théobald. On entend aussi effectivement un enjeu de sémantique et puis peut-être de est-ce que c'est conceptualisé au départ ou est-ce que c'est une façon de s'adapter parfois avec des contraintes qui sont peu de moyens et qu'est-ce qu'on fait avec. Paul, sur des projets locaux, citoyens marseillais, est-ce que c'est des choses que tu observes ou pas?
Alors déjà, au-delà des projets locaux, la low-tech, comme tu l'as dit, ça a été conceptualisé par des ingénieurs, mais en vrai, tout le monde en fait dans le monde. Il y a plein de gens qui ne l'appellent pas low-tech. Et on peut le voir même comme justement au restaurant du Présage ou chez Néoloco. En fait, les Néoloco, donc, qui est le premier torréfacteur et la première boulangerie de France qui fonctionne au solaire. Enfin, ces personnes-là se sont inspirées de technologies qui existent ou qui viennent d'Inde, en général, ou de l'étranger. Et où est-ce que je voulais en venir, déjà? Non, tout ça pour dire, bon, par exemple, aussi avec Amerma, ce qu'on fait, c'est qu'on étudie autour de la Méditerranée différentes solutions low-tech. Et en fait, on se rend bien compte que les personnes qui utilisent ces technologies et dont on s'inspire et qu'on appelle technologie low-tech, ces personnes n'utilisent pas le terme low-tech lorsqu'elles...
Nous, c'est complètement ce qu'on a vécu dans notre voyage. En fait, quand on parlait de low-tech aux gens qu'on a rencontrés, ça ne leur parlait pas forcément. Je pense à Karine qui faisait son fournil, qui a auto-construit toute seule son fournil pour faire du pain. On n'a jamais parlé de low-tech avec elle. Et nous, on était ingénieurs, elle n'était pas ingénieure. Et pourtant, on a juste appris pendant 4 heures de discussion sur comment est-ce qu'on fait du pain, comment est-ce qu'on construit un fournil, quel matériau d'éco-conception on utilise. Et pour autant, il n'y avait pas le titre ingénieur. Mais pour autant, la connaissance d'ingénierie qu'elle avait était beaucoup plus profonde que nous ce qu'on pouvait avoir. Quoi. Donc il y a aussi le diplôme ne fait pas tout. Quoi. C'est ça que je veux dire.
Merci Théobald. Antoine
Oui, peut-être un dernier élément sur... comment aussi ouvrir la low-tech à d'autres publics qu'un public qui est nous, les ingénieurs. Je pense que ce que tu disais aussi, ça rebondit à ce que tu disais, Marjolaine, c'est que la low-tech, si on la conçoit que comme des objets qui sont plus durables et qui ont une empreinte écologique plus faible, ben on va juste penser la low-tech comme des objets, alors que la low-tech, c'est complètement une philosophie. Si on la présente comme un projet politique, on va aussi embarquer plein d'autres personnes qui peuvent se sentir proches de ce projet-là. Donc je pense que c'est aussi la manière dont on parle de la low-tech et dont on la présente va avoir un impact sur quel public va être touché.
Merci pour ce premier aspect. Donc, tout à l'heure, on a parlé du triangle de l'inaction, citoyen, entreprise, acteur politique. Là, on s'est concentré un peu sur les raisons de l'engagement avec des leviers personnels. J'aimerais qu'on passe du moi au nous et qu'on aille sur des enjeux d'organisation, des enjeux collectifs. Et une question assez simple. La low-tech, ça renvoie à des techniques simples, appropriables, réparables. Et donc, mettons un peu les mains dans le cambouis. J'aimerais que vous nous partagiez un projet récent sur lequel vous avez travaillé récemment, donner des exemples aussi pour que la salle puisse s'en saisir et être inspirée.
Peut-être que je peux apporter par rapport à la définition de utile, accessible et réparable, je dirais plutôt écologique, parce que la réparabilité n'est pas critère de durabilité, et donc c'est à la fois une approche globale. Il peut y avoir des matériaux qui sont biosourcés, qui sont en effet issus du réemploi, qui sont locaux. Le système va être peu énergivore, peu polluant, avec un faible impact carbone. Donc, c'est vraiment un certain nombre d'attributs écologiques qu'on va rechercher dans la low-tech. Et pour répondre à la question de quelles sont les actions sur lesquelles on travaille aujourd'hui, donc côté éco, on a des ateliers hebdomadaires de la low-tech qui sont ouverts à toutes et tous et où il y a une grosse mixité de publics. Et puis aussi, on organise des formations, notamment en juin, une formation à la permaculture, en septembre, une formation à l'électrification, à l'installation de panneaux électriques, à la fois le chauffe-air solaire, donc c'est assez varié comme savoir-faire.
Merci Marjolaine. Est-ce que quelqu'un veut compléter? Ouais.
En rentrant du voyage, moi j'ai rejoint Labeltech, qui est une petite entreprise qui s'intéresse à la question de la professionnalisation de la low-tech sur le territoire de Rouen. Et leur sujet était, donc c'est eux qui ont fait le four solaire dont on parlait tout à l'heure autour de Néoloco. Et là, la question sur laquelle je travaillais et on travaillait était comment est-ce qu'on fait du biochar sur la métropole de Rouen ? Du biochar, c'est du charbon de bois, donc du bois qu'on brûle, mais en fait sans l'oxygène. Donc on rentre dans les questions techniques, c'est ce que tu disais. Ça fait du charbon de bois et en fait, ça a plusieurs avantages. On a stocké du carbone, parce que le bois, quand il pourrit, le carbone repart dans l'atmosphère. Donc, c'est le cycle du carbone qui est naturel, mais en stockant ce carbone, on limite la concentration de carbone dans l'atmosphère. Et ce charbon, donc ce biochar, en fait, on appelle ça biochar quand on met du charbon de bois dans des sols, et ça permet d'améliorer les intrants qu'on peut rajouter, donc le compost qu'on va rajouter. Il va être stocké par ce biochar et il va être relâché sur du long terme. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on améliore l'agriculture avec des pratiques qui soient durables sur la métropole de Rouen, avec des outils qui sont assez simples. Là, c'était un pyrolyseur le plus low-tech possible. Et comment est-ce qu'on fait en sorte que les acteurs qui utilisent ce pyrolyseur, ça soit des acteurs de la métropole, qui sont parfois invisibilisés. Donc là, c'était avec des travailleurs handicapés, donc avec un ESAT de la métropole. Et autour de la réflexion était vachement autour de comment est-ce qu'on intègre les travailleurs handicapés dans toutes les étapes de la conception. Pour ne pas arriver avec un objet en leur disant « Regardez, ça marche comme ça, utilisez-le », mais plutôt de voir comment est-ce qu'on arrive à valoriser leur travail tout au long de ces étapes-là, donc de voir en fait ce qui marche, et puis par essai-erreur avec eux, de modifier l'usage et donc l'objet pyrolyseur pour pouvoir avoir cette activité autour de la métropole. Voilà le dernier projet sur lequel moi j'ai travaillé.
Pour sortir un peu peut-être de la technique, nous en ce moment avec le projet donc, du Low-Tech Lab Massalia, on travaille sur la création d'un tiers-lieu productif, une manufacture de proximité, où, en fait un lieu où on peut mélanger différents types de personnes, différentes classes sociales, différents types de métiers dans un lieu pour faire de la recherche et développement du prototypage et pour juste partager des moments et échanger nos savoirs sur des projets de transition écologique et sociale. Donc voilà, on est en train de travailler sur la création de ce lieu. C'est un peu un tiers-lieu, hein, une guinguette, un espace plutôt artistique, un atelier de fabrication et prototypage. Et voilà, on aimerait aussi avoir des projets à impact social. Par exemple, simplement aller récupérer les invendus pour faire des soupes populaires. Ça peut vraiment aller... l'important, c'est créer du lien social aussi, ce qu'on veut. Et on pense que c'est ça qui manque. Et c'est une bonne façon de toucher plus de citoyennes et citoyens.
Est-ce que ce lieu est secret ou on peut savoir où ça sera ?
On a identifié un lieu, il y aura un appel à projet, etc. Mais pour l'instant, on ne peut pas savoir.
Ok, c'est secret.
Ce sera dans Marseille.
Ah, parce qu'on est dans le 72 heures de l'écologie de Marseille. Donc, si on peut savoir où vous rejoindre, tu viendras présenter à la radio le moment venu.
Avec plaisir.
Antoine, non ? Très bien. Je vais passer à ma question suivante. Ma question suivante, elle était sur le fait qu'on a parlé technique, mais vous avez aussi, dans vos réponses, assez rapidement parlé du fait que ça touchait évidemment à des enjeux sociaux et des enjeux économiques. Je voulais savoir, parce que ça a été vachement présenté dans le film, comment vous le viviez, vous, au quotidien, cette force collective, dans une société parfois un peu anxiogène à l'heure actuelle. Ça fait du bien que de se rassembler, de vivre des projets qui font que chacun et chacune a quelque chose à apporter. Donnez-nous un peu de force pour qu'on ait envie de basculer collectivement.
Peut-être moi, ce que je peux dire sur ce sujet-là, c'est que pendant notre voyage à vélo et même après, pendant les projections, etc., ce qu'on voit dans la low-tech, c'est qu'il y a un aspect de transmission et d'open source qui est vraiment fondamental dans ce sujet. Même si on ne peut pas dire où sera le prochain lieu dont tu parlais tout à l'heure, Paul, il y a quand même vraiment la volonté d'avoir aucun secret, de tout partager. Nous, pendant notre voyage à vélo, tout le monde nous a accueillis, nous montrait ce qu'il faisait, nous cachait rien. Il y a un monsieur qui nous a donné plein de plans pour construire plein de trucs. Enfin, c'est vraiment hyper collectif, comme tu disais, et ça fait super plaisir de voir que quand on travaille ensemble, on peut mettre vraiment toutes nos énergies ensemble et qu'il n'y a pas de notion de compétitivité, de secret industriel ou quoi. Je trouve que c'est quelque chose de vraiment très puissant dans la low-tech parce que cette transmission-là permet ensuite de transmettre les savoirs dont tu parlais, créer du lien, etc. Et je trouve que c'est vraiment un aspect très puissant de la low-tech en termes de joie, juste de faire des choses ensemble.
Merci Antoine, et j'espère que le public, comme personnellement je l'ai ressenti, a aussi ressenti cette bouffée d'optimisme. Moi, ça m'a rappelé la période un peu d'après-Covid, quand on était à penser le monde d'après, et qu'il y avait vraiment une volonté de pousser qui, ces derniers temps, est peut-être un peu en train de s'éroder avec l'actualité géopolitique. Donc merci pour ce film qui fait du bien. Théobald, est-ce que tu suis un peu la même approche ?
Oui, complètement d'accord. Moi, j'aime beaucoup la phrase d'Estella dans le film qui dit... finalement, ce qui a vraiment de la valeur, c'est les personnes avec qui je fais ça. Elle ne le dit pas comme ça, elle le dit en anglais, mais c'est ce que ça veut dire. Et moi, quand tu parles de collectif et quand tu dis qu'est-ce que vous faites pour vous mettre en énergie, en fait, moi, c'est ce genre de moment où juste en fait, se rendre compte qu'il y a des personnes que ça intéresse, de creuser ces questions-là, de construire ensemble d'autres imaginaires. Je trouve ça toujours trop chouette et à chaque fois, ça me remotive pour continuer à faire ça et continuer à me poser moi des questions sur qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie et comment est-ce qu'on avance ensemble sur ces questions-là. Donc je trouve que le collectif, c'est aussi ces moments qu'on a là ensemble.
Paul, tu veux...
Ouais, moi, ça me fait penser à ce qu'on fait aussi avec Amerma. Avec Amerma, on re-questionne aussi les modèles de gouvernance. On explore différents modèles, différentes structures juridiques de non pas justement des entreprises, mais ce qu'on veut, c'est développer des écosystèmes industriels low-tech. Et ça, le plus souvent, c'est sous forme de coopératives. Donc, on explore différents modèles de gouvernance, mais aussi ce qui est intéressant, c'est de redistribuer les richesses aux salariés plutôt que d'avoir des actionnaires qui se partagent les bénéfices d'une entreprise, par exemple. Enfin, je pense que c'est une autre façon aussi de remettre l'humain au centre du travail.
Merci Paul, remettre l'humain au centre du travail et puis retisser des liens entre des personnes dont les trajectoires et les parcours de vie sont parfois très différents. Marjolaine, j'imagine qu'avec l'OTEC Eco, l'OTEC Lab, qui s'adresse notamment à des personnes réfugiées, c'est quelque chose que tu dois vivre au quotidien.
Oui, en effet, il y a beaucoup de partage et de rencontres qui se fait dans le partage des savoir-faire. En 10 ans, on a impliqué plus de 15 000 personnes à travers des stages, des chantiers participatifs, des ateliers. Donc, il y a de toute évidence un certain nombre de personnes pour qui ça a du sens de partager, de vivre la low-tech et des personnes qui viennent d'horizons très variés. On a eu près de 46 nationalités différentes, donc c'est vraiment des publics avec des origines socioculturelles très diverses. En tout cas, en 10 ans, ce qui est sûr, c'est que le mouvement de la low-tech s'est fortement structuré, outillé et qu'il y a un gros engagement, un gros engouement citoyen pour la low-tech qui se développe et qui, je pense, n'est pas prêt de se terminer. Et c'est fait avec joie. Donc je pense que c'est une des recettes qui fait que la low-tech parle en dehors de ce qu'elle apporte en termes de concept ou de démarche. C'est aussi cette valeur de joie, de bonheur au fil du chemin et de l'engagement qui nous fait continuer à nous engager.
Merci Marjolaine. Depuis le début de l'émission, on a parlé de la question des leviers d'engagement individuel, on a parlé de la force du collectif et de la capacité à remettre l'humain au cœur du travail. J'aimerais maintenant qu'on change encore d'échelle pour aller questionner les leviers systémiques, les leviers politiques et faire en sorte que ces initiatives qui, à l'heure actuelle, sont des initiatives qui peuvent, à certains égards, s'apparenter comme étant à la marge, puissent venir être le centre de demain. Et donc, comment est-ce que on va réussir à changer d'échelle? C'est une des questions que j'aimerais vous poser. Parce qu'un des éléments qui ressort beaucoup du film, c'est que la contrainte est source de création et que cette création, elle invite à un changement de notre regard sur le rapport au travail, au temps, à la lenteur, à la productivité, avec une nécessité de discerner sur nos usages, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je décide de renoncer, qu'est-ce que nous décidons aussi de renoncer collectivement, de s'approprier des techniques, de regarder nos actions avec les impacts que ça peut porter sur nous, sur les autres, sur nos écosystèmes de manière plus générale. Bref, en fait, la low-tech, c'est porteur d'une révolution, une révolution sociale, et on l'a vu dans le film et ça a fait du bien de le regarder. Et donc, moi, j'aimerais qu'on puisse se la projeter. À quoi ça ressemble? Donc, en 2036, si on se projette dans 10 ans et qu'on a réussi à faire ça, en quoi une société low-tech viendrait transformer nos pratiques, nos échanges, nos modes de vie au quotidien? Là, on est vraiment sur les imaginaires. Projetons-nous. On a réussi. Qu'est-ce que ça donne? Comment on le vit? Merci d'être le premier à être lancé.
Je peux reformuler ta question pour me l'approprier.
Vas-y, avec plaisir.
Parce que moi, j'ai envie de dire, en 2036, on n'aura pas un monde low-tech. Donc je le remets dans le contexte que j'imagine sera celui de 2036.
C'était ma question suivante, mais...
pardon. Et je me dis, par contre, là, on est en train de vivre des moments de crise géopolitique, comme tu étais en train de dire, et ça implique plein de choses sur les flux, sur l'énergie, notre accès à l'énergie, notre accès aux matières premières, etc. Et on a parlé tout à l'heure de Néolocaux, du coup, qui est une boulangerie torréfaction solaire à Rouen. Et eux, ils font donc du café, de pois chiches et de lentilles. Leur café de pois chiches et lentilles, et vous pouvez l'imaginer, un petit peu plus cher que du café qu'on pourrait acheter dans le commerce. Mais en fait, c'est de moins en moins vrai. Quand on regarde les cours du café qu'on importe en France, on se rend compte que le café coûte de plus en plus cher. Et aujourd'hui, en fait, ils sont presque aussi chers que du café classique. Et donc, moi, je me dis, en 2036, ça va s'aggraver, cette situation. Et donc, on va voir émerger plein de torréfactions, je ne sais pas comment on dit, d'acteurs de torréfaction artisanale un peu partout sur les territoires pour faire du café, enfin des alternatives au café avec des plantes locales. Et donc ça, moi, je trouve ça cool parce que je me dis, c'est pas cool parce qu'il y a des soucis géopolitiques, mais par contre, sous la contrainte, la low-tech permet d'inventer de nouvelles choses qui sont plus sobres, qui redonnent du sens aussi au travail. Et voilà. Donc ça, je me dis, en 2036, s'il y a ça, on est content.
Merci Théobald.
Si je rebondis sur ce que tu disais, c'est vrai que c'est ce que dit Timothée dans le film. Quand on augmente les risques et les aléas, finalement, la robustesse devient peut-être plus avantageuse que le business as usual qu'on connaît. Et donc, pour imaginer un monde un peu low-tech en 2036, moi, je pense que ce qui peut vachement parler, peut-être sans imaginer une révolution complète, mais c'est de voir le prisme de la low-tech comme la mise en avant de la réparation. Et on en parlait juste avant, du collectif et de travailler ensemble. Je pense que des choses comme moins jeter mais plus réparer, que ce soit son vélo, ses vêtements, enfin des choses chez soi, tout ce qu'on a, ça peut se développer assez facilement, en tout cas dans un univers plus contraint. Et aussi peut-être par exemple, je sais pas, un truc assez concret dans les lotissements ou dans un immeuble, on va avoir des librairies d'objets qu'on va pouvoir tous partager ensemble sans forcément que chacun ait sa perceuse, mais peut-être une perceuse pour, je sais pas, 20 foyers, 30 foyers, enfin ce genre de choses, où du coup on va aussi apprendre à travailler ensemble et à se partager des objets, etc. Plus de commun, finalement.
Merci Antoine. Plus de commun, est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous raisonnez ? Vous avez une autre approche, Marjolaine, Paul ?
Je veux bien rebondir. Je sais pas, du coup, je vois pas les personnes, donc je sais pas qui parlait en tout premier.
C'était Antoine.
Mais
ah non,
en effet, le marché... Pardon ?
C'était Théobald. Mais vas-y, je t'écoute.
Ah, Théobald. Théobald disait que c'était finalement le prix qui allait aussi rendre les choses plus accessibles, la low-tech plus démocratique. Et je fais pas forcément confiance au marché, à l'offre, au jeu de l'offre et de la demande, parce qu'il va réagir trop tard par rapport aux enjeux sociétaux et par rapport aux énergies non renouvelables qu'on exploite et aux matériaux non renouvelables qu'on exploite bien trop fortement aujourd'hui. Donc pour moi, ce que j'espère et le levier qu'il est urgent d'actionner, c'est le levier politique. Aujourd'hui, il y a des citoyens, des petites entreprises, des acteurs qui explorent la low-tech. Et l'étape d'après, c'est des politiques structurantes à l'échelle locale, notamment, qui viennent développer et rendre la low-tech plus intéressante pour une majorité de personnes qui n'ont pas à faire des choix de la low-tech, mais pour qui c'est une norme et une évidence. Mais ça demande une volonté politique. Et c'est le troisième acteur. Mara, en introduction, tu nous parlais des citoyens, des entreprises et des politiques. Et je pense que c'est le troisième acteur qui doit prendre sa place au niveau de la low-tech aujourd'hui.
Il me semble qu'on a vu dans le film sur le présage qu'il y avait justement des blocages politiques, notamment sur le fait qu'il y avait des impossibilités légales de pouvoir faire un certain nombre de tests. En tout cas, il y a quelques années, quand ils m'en avaient parlé, ils expliquaient que tout ce qui concernait le fait de récupérer les eaux usées pour ensuite faire un jardin nourricier qui puisse avoir des poissons qui vont ensuite pouvoir décomposer une partie des éléments qui se trouvent dans l'eau, bah, n'étaient pas permis d'un point de vue légal parce que c'était un restaurant. Et donc, comme il y avait tout un tas de normes pour que le restaurant respecte des enjeux d'hygiène, et bah, il ne pouvait pas créer tout cet écosystème-là. Donc effectivement, on voit bien qu'il y a des endroits où il y a des enjeux politiques, avec peut-être aussi le droit de faire plus de tests, plus d'expérimentations. Paul, de ton côté, comment tu t'inscris sur cette question-là ?
Ouais, un territoire ou un monde low-tech en 2036. Moi, je dirais que déjà, ça passe par plus d'espaces communs pour échanger et partager des moments, échanger nos savoirs, nos expériences, etc. Ça passe aussi par l'éducation. Je pense qu'il faudrait plus d'activités manuelles, plus d'activités extérieures dans l'éducation. Après, plus de coopératives. Quoi d'autre ? Ouais, j'ai mis dans mes petites notes, j'ai mis plus de vélos, moins de voitures, plus de troc et d'échanges, plus de locations, moins d'achats, moins de propriétés. Voilà, plus de durabilité, plus de réparation et moins d'obsolescence programmée. Voilà, plus de simplicité. Plus de moins.
Pour rebondir sur les normes, il y avait un. C'est quelque chose qui bloque vachement quand on veut faire rentrer des objets low-tech dans des entreprises, en tout cas faire des activités artisanales professionnelles avec des objets low-tech. Les questions des normes, en fait, c'est une des premières questions. C'est comment est-ce que je fais en sorte que les personnes qui vont travailler sur ces objets soient protégées par le code du travail. Et donc, c'est un des premiers bloquants, en fait, pour faire rentrer les low-tech dans le monde économique classique. Donc, effectivement, c'est un très bon point.
Merci pour ces réponses. Et j'avais une autre question, mais je pense que je vais aussi l'ouvrir pour que la salle puisse commencer à participer à cet échange. Quelque chose qui me vient, c'est aussi comment on se positionne soi. Parce que Moi, un des sentiments, je ne sais pas si c'est partagé, que ça m'a donné, c'est vraiment une confrontation entre au moins deux mondes, avec un monde du business as usual qui est en train de mettre en place une économie de la catastrophe, avec toujours plus d'extractivisme, aller toujours plus loin, avec une IA où tout le monde se jette pour absolument vouloir la développer, avec le fait que ça dévore les ressources en eau, en minerais, et parfois sur des questions de souveraineté, et avec l'utilisation qu'on en fait, notamment dans des contextes militaires qui peuvent être catastrophiques. Et parallèlement, il y a donc cette low-tech qui a cette volonté d'être sociale, réparable, d'être aussi sur quelque chose qui est plus lent, et en même temps qui redonne du pouvoir d'agir. Et parfois, ça m'interroge sur comment on se positionne. Est-ce que ces deux mondes peuvent cohabiter? Est-ce que la low-tech peut venir transformer le système actuel? Ou est-ce que vraiment il faut proposer une révolution, un point de bascule? Et donc, je voulais vous poser la question à vous, mais je pense que ça peut aussi être la première question que je pose au public. Et évidemment, public, vous pouvez également poser d'autres questions pour que cette discussion puisse être pleinement interactive pendant encore les 15-20 minutes qui nous suivent. Je vais me promener avec deux micros, et donc n'hésitez pas à vous le partager ici pour pouvoir continuer à répondre. Si quelqu'un veut intervenir, poser une première question, un premier témoignage, le plus dur étant d'être la toute première personne. Non ? Personne ? Oui. Et alors, je vous invite aussi à vous présenter, juste donner votre nom quand vous commencez.
Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Thomas. Moi, j'avais une question, enfin, c'est à la fois une piste et une question, en quelque sorte, qui est un peu sur la sémantique, on en parlait tout à l'heure. Moi, je suis un ancien salarié de la high-tech, pas ingénieur, mais bon, voilà, communication, marketing, vous voyez le genre de choses, qui est un peu bifurqué vers les low-tech, enfin, complètement même. Du coup, le mot, l'expression low-tech existe beaucoup en opposition avec la high-tech, alors que ce n'est pas exactement pour moi vrai, même si effectivement la dimension technocritique qui me parle beaucoup aussi vient résonner là-dedans. Du coup, il y a une piste et en même temps une question effectivement pour moi qui est intéressante, c'est comment on pourrait appeler les low-tech autrement, parce que je trouve que déjà c'est un terme anglophone qui est toujours pour plein de gens un peu un repoussoir, très franchement. Ce que je comprends tout à fait, et moi le premier, j'utilisais énormément d'anglicisme avec beaucoup d'années d'habitude à bosser dans des boîtes qui pour certaines, étaient américaines, bon bref. Voilà, j'avais une piste qui serait pour moi peut-être de trouver un autre nom pour cette démarche, pour ces objets, pour tout ça, et du coup une question, est-ce que vous avez des pistes sur ça? Est-ce que vous appelez ça autrement? Moi, j'aime bien, dans le cadre de mes activités, parler de technologie douce, qui est un peu une traduction sans être vraiment une, et que je trouve plutôt joli, mais qui ne parle pas à grand monde pour l'instant. Donc, est-ce que vous avez dans le quotidien d'autres expressions que vous utilisez, une sémantique un peu différente qui pourrait être intéressante? Voilà.
Merci Thomas.
On prend toutes les questions ou est-ce qu'on...
Non, ça va être une sorte de ping-pong, donc c'est vraiment maintenant okay. Faire un échange collectif.
Ok. Bah, je peux amener un début de réponse à Thomas?
Oui, bien sûr. Oui. Ouais.
Alors, le terme low-tech, il a toute une nébuleuse conceptuelle autour de lui, et notamment des termes qui le précédaient. On parle beaucoup de technologie appropriable, technologie adaptée, technologie intermédiaire. Il y a des concepts un peu plus éloignés qui font référence peut-être à d'autres secteurs. Souvent, quand on parle de low-tech, on fait souvent référence à des systèmes qui traitent la question de l'accès à l'énergie. Des concepts comme l'agroécologie ou la permaculture sont des démarches assez similaires qui partent moins de l'objet, plus de principes, qui sont plus développés dans d'autres secteurs de besoins, mais qui partagent en tout cas des valeurs et des principes d'intervention communs. Paul faisait référence à l'Inde tout à l'heure. L'Inde est connue pour le Jugad. Le Jugad, c'est l'innovation frugale qui est un peu différente de la low-tech. Donc, chacun de ces concepts est connoté différemment, amène des choses différentes, mais c'est loin d'être le seul terme pour parler en tout cas de cette démarche générale dont il est question.
C'est peut-être pas gênant qu'il y ait plusieurs termes différents en fait. Enfin, comme Marjolaine disait tout à l'heure, la question de l'appropriation des low-tech, elle est hyper importante. Et si chacun s'approprie le terme comme il le souhaite, bah, tant mieux. J'ai l'impression que la question qu'on peut se poser, c'est quel est le terme le plus évocateur? Et là, je reprends le côté marketing. Quand on parle à des gens, selon à qui est-ce qu'on parle, quel terme on utilise? C'est peut-être ça la question. Selon le message qu'on veut faire passer derrière. J'apporte pas de réponse, je pose une autre question.
On m'a toujours dit que le pouvoir était du côté de la question et pas de la réponse. Est-ce que quelqu'un veut, veut, veut continuer à contribuer à ce débat commun. Ouais.
Alors Mathieu, moi je suis un villageois un peu à l'extérieur de Marseille. J'avais juste une question. On est sur comment est-ce qu'on peut parler aux gens, parce que merci d'abord pour votre film, hein, et tout l'aspect de la communauté. Je l'avais pas, pour moi sur le low-tech, je l'avais pas du tout intégré cette partie-là, la partie triangle également, avec les institutions qui sont toujours très loin et très très formalisante et bloquante sur un certain nombre de sujets, parce que justement, il faut qu'elle réponde à des normes, elle ne répond pas du tout à des problèmes. Donc, c'est souvent ce problème-là. Mais c'était juste pour, par rapport aux approches low-tech, comment est-ce qu'on peut vraiment... parce que je pense que dans la communauté, les gens sont bloqués. Finalement, on est bloqués dans notre bulle de confort, dans notre cage sécuritaire, dans notre enveloppe communautaire. On est bloqués par ces freins-là. Mais comment est-ce qu'on peut amener de la low-tech sans utiliser, enfin sans que ce soit le terme low-tech, et quels sont, dans ce que vous avez vécu, quelles sont les premières approches, les premières choses qu'on pourrait faire? Est-ce que ce serait justement le frigo du désert? Est-ce que ce serait le four solaire? C'est quel objet finalement, ou quelle approche, je ne sais pas si c'est l'atelier de réparation, qui va en fait casser cette bulle, cette enveloppe, cette cage sécuritaire qu'on peut avoir autour de nous, pour finalement ouvrir vers une nouvelle communauté? Plutôt que les gens ils se disent bah non, moi ça m'intéresse pas votre truc, ça rentre pas dans dans mon schéma de pensée, quoi. Est-ce qu'il y a des innovations, des façons de faire, des objets, je vais dire objets, qui facilitent en fait cette entrée dans la matière pour tout le monde, pour que ça se démocratise, pour que les gens puissent vraiment se l'approprier et se dire ah ben oui, si je fais ça, je fais partie de cette communauté, et puis ça m'ouvre en fait beaucoup plus loin.
Merci pour la question.
Est-ce que c'est une question à l'échelle citoyenne ou à l'échelle des entreprises ?
Citoyenne.
Citoyenne. Ça ne m'arrange pas.
Je crois que pour moi, dans tous les cas, la réponse ne pourra pas être un objet low-tech, le frigo, la marmite norvégienne, un peu le catalogue des objets emblématiques de la low-tech, le cuiseur solaire, le pédalier vélo, etc. La low-tech, par définition, elle est adaptable et elle part du besoin. Du besoin et des ressources. Donc, peut-être partir. Donc, la démarche, en effet, ce n'est pas une liste d'objets. Faire de la low-tech, ce n'est pas collectionner des objets low-tech chez soi. C'est plutôt se poser les questions dans le bon ordre. Et donc, partir du besoin de la personne qui ne sera pas le même. La low-tech n'est pas universelle, elle est adaptable, appropriable. Et partir de la personne, de son contexte, de sa réalité, de son quotidien. Et certainement pas le frigo du désert, par exemple.
Merci Marjolaine. Si je peux ajouter un truc, nous, justement, pendant qu'on structurait le Low-Tech Lab de Marseille, on a contacté pas mal de Low-Tech Lab en France, en Suisse, en Belgique. Et justement, pour ramener du monde, etc., eux, ce qu'ils nous ont invités à faire, en fait, c'est ce qui marche un peu tout le temps, c'est des boissons, enfin manger et boire, quoi. C'est ça qui va ramener du monde. Et du coup, d'avoir un rocket stove, donc une sorte de four économe en énergie qui... pour faire, je sais pas moi, des frites ou n'importe quoi, ça va peut-être ouvrir la porte à des nouvelles personnes. Nous, là, en ce moment, il y en a qui s'intéressent. Donc, au sein du Low-Tech Lab Massalia, donc on a une certaine communauté, plein de projets collaboratifs où des gens travaillent en petits groupes sur ce qui les intéresse. Il y en a qui travaillent sur une tireuse à bière low-tech. Voilà, donc à partir, je sais plus comment ça fonctionne, mais à partir d'une... une pompe à vélo, ouais, voilà, c'est ça. Et peut-être que c'est dans des moments festifs comme ça. Il y en a qui font aussi de la low-tech juste avec, par exemple, un batteur à Marseille qui fait avec plein de déchets, des pots de peinture, etc., qui fait des concerts techno avec des instruments en récupération. Donc, je pense que ça peut être une solution.
Merci Paul. On va laisser la parole à notre régisseur qui aussi a un mot à dire sur la question.
Et oui, parce que je ne suis pas que régisseur, donc Robin. Et j'ai l'impression que tout à l'heure, Marjolaine, tu disais ça et j'ai envie d'enfoncer le clou. C'est qu'on ne peut pas penser les techniques et les technologies sans le monde qui va avec. Et du coup, d'où l'enjeu de penser le système politique qui est lié. Parce que quand on voit, par exemple, si on prend par exemple la question du numérique et le développement des data centers à Marseille, ça pose la question de nos usages de l'IA et qu'on peut penser à un numérique en low-tech. On pourrait imaginer une autre utilisation du numérique ponctuelle, occasionnelle. Et du coup, ça pose des enjeux politiques, mais ça pose aussi des enjeux de nos usages et de comment revoir nos usages. Et que là, ça va très vite. C'est un capitalisme très agressif dans lequel on est, qui développe des choses... Bon, si je reste sur l'exemple, qui prend toujours beaucoup de données. Et du coup, comment on peut... L'enjeu, ce n'est pas de se dire on se passe du numérique, c'est comment on en crée un qui est viable et qui est justement peut-être occasionnel, où les serveurs ne sont pas en permanence connectés, etc., etc. Et ça, c'est qu'un exemple, mais ça vaut pour la nourriture, ça vaut pour tous les aspects de nos vies.
Merci Robin, je voulais intervenir sur ce que tu viens de dire parce que je voulais donner un exemple qui m'a énormément marqué récemment. Je ne sais pas si vous connaissez le Bureau des Guides à Marseille. Bureau des Guides, qui est une association qui propose des conférences marchés, des sortes de randonnées philosophiques et poétiques. Il y en avait une sur l'histoire du port de Marseille et on s'est rendu devant en fait, les data centers qui se trouvent au nord, Saint-Henri, Saint-Antoine et les Stacks. Et un des éléments qui m'a énormément frappé, c'est que ces data centers américains utilisent une déviation d'une source d'eau qui vient de Gardanne. Parce qu'au 19e siècle, ils ont creusé à Gardanne une mine de charbon et ils sont tombés sur une nappe phréatique et donc ils ont dû la détourner. Et donc cette nappe qui va directement à la mer, c'est d'ailleurs son nom, est aujourd'hui utilisée pour refroidir un data center américain qui est utilisé pour stocker des données qui sont d'Afrique du Nord parce qu'il n'y a pas assez de capacité d'avoir une capacité constante de production d'énergie selon ces data centers en Afrique du Nord. Donc c'est Marseille qui les héberge et on utilise cette eau pour faire ça, alors qu'on pourrait l'utiliser pour arroser des jardins partagés ou pour l'utiliser à des fins quotidiennes dans les villes en fait, que traverse cette nappe. Donc c'était vraiment dans le sens de l'utilisation des usages, c'est extrêmement marquant par rapport à ce que tu disais Robin, et donc je voulais apporter ça au débat. Et je te voyais commencer à vouloir répondre Théobald, mais si d'autres personnes veulent continuer aussi à participer à la discussion, j'ai un deuxième micro à la main, n'hésitez pas.
Moi, je voulais juste réagir sur effectivement ce que tu disais, c'est vachement en résonance avec ce que Marjolaine disait sur le besoin, en fait, questionner le besoin en premier lieu, et je pense qu'on se rend tous de plus en plus compte à quel point les technologies façonnent nos modes de vie et notre mode de faire société. Quand on parle voilà, du numérique, de la tech, nos smartphones, l'IA, etc. Tout ça, ce n'est pas des choses qu'on choisit. Et la low-tech, c'est aussi se poser la question de qu'est-ce qu'en fait j'ai envie, moi, en tant que citoyen, d'utiliser. Et puis, en tant que collectivité, entreprise, etc., d'utiliser. Et ça, je pense que c'est une des premières choses à faire dans la question de comment est-ce qu'on décide démocratiquement autour de ces sujets-là, plutôt que ça soit quatre personnes dans la Silicon Valley qui décident que demain, on a tous des implants dans la tête qui nous permettent de prendre des photos. Est-ce qu'on ne pourrait pas nous décider collectivement sur ces sujets ? Voilà, je trouve. Ben, moi, c'est une question qui me trotte dans l'esprit, en tout cas.
Ouais, je vois quelqu'un qui veut participer. Donc, comme nous sommes à la radio, je comble le trou et je te laisse pareil te présenter et poser ta question, ta intervention.
Bonjour, du coup, je m'appelle Laetitia et d'abord, je voulais vous remercier pour la projection du film. Je pense que le travail est assez ouf quand même, assez énorme. Tout le monde n'est pas capable de partir en vélo comme ça, moi non. Donc, respect déjà pour commencer. Moi, je me posais deux questions. La première, c'est comment vous avez défini un petit peu les personnes que vous souhaitiez rencontrer, les pays où vous vouliez aller. Enfin, est-ce que c'est quelque chose auquel vous aviez déjà réfléchi en amont ou vous êtes vraiment totalement laissé aller sur le moment ? Et j'avais une question aussi sur l'énergie solaire. Alors, je ne suis pas ingénieure, donc peut-être que ma question va être naïve. Mais le soleil, c'est quelque chose qui a toujours existé. Pourquoi ce n'est pas quelque chose qu'on a plus utilisé déjà avant ? Alors que ça peut être, on l'a vu, quelque chose de pratique, de renouvelable. Donc pourquoi on s'y met, entre guillemets, un peu maintenant, quoi ?
Merci.
Merci pour ta question et tes commentaires. Pour la première question sur le voyage, c'était vraiment, on a identifié quelques acteurs et actrices en amont. Et après, on est vraiment parti sur les routes freestyle. Et en fait, ce qui est trop chouette, c'est que, comme on disait tout à l'heure, c'est quand même la low-tech, un monde très ouvert. Et donc, on rencontrait quelqu'un qui nous disait « Ah, mais moi, j'ai une pote, elle fait ça, elle est à peut-être genre, je sais pas, 150 bornes. On dit, bon, ok, en deux jours, on sera là-bas et ça va nous prendre deux jours. Et on va voir cette dame qui après nous dit, ah, mais moi, j'ai un pote. Et donc, on va voir son pote. Et donc, ça marchait vachement bouche à oreille parce que les gens sont hyper contents, en fait, de parler de ce qu'ils font. Et nous, on était hyper contents de les écouter. Donc, ça marchait vachement, vachement comme ça, quand même. Et pour la deuxième question, c'est une très bonne question. Ouais, si tu veux.
Ouais, je peux peut-être des éléments de réponse. Il y en a de partout, effectivement, du soleil, mais c'est une énergie qui est très diffuse. Donc, en fait, en un point, on a peu d'énergie. Donc, ça, c'est pas très pratique. Et l'autre chose qui est pas très pratique dans l'organisation du travail, c'est que c'est une énergie qui est intermittente. On l'a que le jour et pas la nuit et que quand il fait beau. Et nos sociétés, au moment de l'industrialisation, se sont construites sur une énergie qu'on a à tout moment, avec le charbon, puis le gaz, puis le pétrole, le nucléaire. Et du coup, revenir... Et c'est ce que proposent les gens qui travaillent sur ces systèmes-là. Ils proposent de revenir à une organisation du travail qui est intermittente à l'énergie. En tout cas, qui est concomitante au moment où on a l'énergie, faire les tâches énergivores au moment où l'énergie est disponible. Donc en fait, ça suppose de s'organiser autrement, ce qui n'est pas gênant, mais ce qui demande un petit peu de conception de l'organisation.
Et oui, bonjour.
Je sais jamais si...
Oui, bien sûr, Marjolaine.
D'autres personnes. Je pense que cette question sur pourquoi le solaire n'a pas été plus exploité jusqu'à maintenant, c'est une question qui vient souvent quand on a une vision de la low-tech de aussi, ah, c'est des solutions qui sont parfaites et une certaine forme finalement d'idéalisme par rapport au système low-tech. Les systèmes low-tech, ils ont des avantages et des inconvénients. En fait, tout système technique a des avantages et des inconvénients par rapport à un autre système technique. Un avantage du solaire, c'est que par exemple, il est gratuit. Mais il a aussi plein d'inconvénients. Et par exemple, moi, j'utilise la puissance solaire en été, quand il fait beau, et quand je suis chez moi disponible pour pouvoir augmenter mon panneau toutes les 30 minutes face à mon soleil, parce que j'ai juste un cuiseur solaire classique. Par exemple, en hiver, je vais plutôt cuisiner sur mon poêle à bois parce que je me chauffe déjà avec mon poêle à bois. Donc, je cuisine et je me chauffe en même temps. Et puis, en fait, quand j'ai pas le temps entre midi et deux, que vite je me fais un plat de pâtes, en fait, j'allume le gaz. Et donc, c'est, voilà, si il fait pas beau, si c'est le soir, je peux pas forcément cuisiner avec le soleil. Donc, ça a des avantages. Et on parle aussi beaucoup de techniques complémentaires, de manière qu'on voit dans les médecines alternatives aussi des médecines qui sont complémentaires. La low-tech, elle peut aussi être abordée sous un angle plus complémentaire et ne pas non plus idéaliser un système par rapport à tous les autres systèmes. Et ça, il faut les remettre dans leur contexte toujours. En tout cas, ça mériterait d'être davantage développé et économiquement d'être plus rentable pour des industriels, pour des territoires, pour des individus de faire ce choix-là. Donc, il y a aussi des enjeux socio-économiques derrière.
J'ai juste donné la parole à Simon, qui est docteur, je crois, en solaire thermique.
Voilà. Oui, bonjour, merci Paul pour l'introduction. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est que déjà, le solaire, c'est une passion. Et en fait, c'est magnifique. Et en fait, on l'utilise déjà un peu partout. Enfin, par exemple, les plantes poussent grâce au soleil. Donc, en fait, utiliser brûler le bois pour se nourrir l'hiver, c'est déjà utiliser le solaire parce qu'il a grandi l'été grâce à tout ce soleil emmagasiné. Donc, en fait, il y a tout ce côté biologique du soleil qui fait tourner en fait la planète. Quoi. Même les éoliennes tournent grâce au solaire finalement, en induisant les courants du vent. Et donc ça, c'est pour la partie sympa. Mais effectivement, c'est vrai que derrière, utiliser le soleil, c'est-à-dire au sens propre, c'est-à-dire nous, comme on le voit. Alors déjà, on enlève toute la partie, évidemment, tout le solaire passif, c'est-à-dire qu'une fenêtre, c'est déjà utiliser le solaire pour chauffer son bâtiment. Voilà, on peut aussi, avant, dans l'Antiquité, ils utilisaient donc des pierres qui chauffaient au soleil, sur lesquelles ils posaient, par exemple, le poisson pour le faire sécher. Donc le soleil a toujours été très utilisé, finalement. Et il est toujours... Enfin, aujourd'hui, tu sors dehors pour te réchauffer, voilà, c'est déjà là. Mais par contre, derrière, effectivement, il y a tout le côté technologique plus complexe. Et là, on rentre dans un domaine compliqué des fours solaires et tout ce genre de choses. Voilà.
Merci, Simon. Je voyais Justine qui voulait intervenir à son tour. Je te laisse le micro.
Merci. J'avais une question à propos des institutionnels, parce qu'on a bien parlé du triangle tout à l'heure. Et nous, quand on a organisé plus 20 au mois de novembre, on a vu la place, en tout cas, que la mairie de Marseille pouvait prendre dans l'événement. Et c'était notamment plutôt sur le dérèglement climatique et le travail. Et vous, quels sont les les retours que vous avez donc à travers le film d'abord, mais quels sont les retours que vous avez des institutionnels? Est-ce qu'elles viennent quand vous diffusez le film? Est-ce qu'elles prennent la parole? Marjolaine, je sais que tu es aussi en lien depuis de nombreuses années avec les institutionnels. À Merma, vous êtes quand même très ancrée aussi. Quels sont, un, les retours des institutionnels? Et deux, peut-être que ça peut être aussi éclairant que vous puissiez nous donner votre avis sur le coût pour les institutionnels de passer sur une démarche low-tech, parce que c'est en identifiant le coût qu'on pourra aussi aller de l'avant.
Large question. Je vois des regards qui se posent.
Non, nous, on n'a pas beaucoup échangé avec des institutionnels lors des différentes projections qu'on a faites. Donc sur cette partie de la question, on ne va pas être très pertinent. Sur la question du coût.
Si ce n'est peut-être, enfin, si on entend les institutions au sens large, on a quand même fait des projections dans des écoles d'ingénieurs qui restent quand même des institutions de construction du savoir et de construction de trajectoire personnelle, etc., et de construction de tout un métier et d'une pensée. Et c'est quand même des institutions qui sont assez, pour certaines, volontaires d'avoir ce genre de sujet, qui les accueillent. Mais ce qu'on voit souvent, c'est que c'est quelques personnes, quelques individus qui vont ramener ces sujets dans ces institutions-là et qui vont organiser des événements parfois un peu contre vents et marées de ce qu'ils nous disent et qui sont contents qu'on soit là pour justement appuyer leurs propos et montrer que c'est important. Mais ça passe souvent par des individus qui vont nous dire « Ah, ben, on aimerait bien organiser une projection, c'est compliqué, est-ce que vous pouvez venir ?» etc. Et donc ça passe souvent par des individus, dans notre cas en tout cas.
Marjolaine, est-ce que tu voulais répondre ?
Les questions des institutionnels, elles sont aussi très politiques. Et donc, ça dépend des territoires et des politiques à l'œuvre à l'instant où on traite le sujet. ECHO a agi sur le terrain sur différents territoires et on n'a pas le même accueil et les mêmes soutiens, voire même les mêmes bâtons dans les roues selon les territoires. Pour des raisons profondément politiques. Après, ce qu'on peut quand même mentionner, c'est que, par exemple, l'ADEME s'est approprié la démarche low-tech depuis maintenant plusieurs années. Donc, il y a quand même des étapes qui sont à l'œuvre, des réflexions, des expérimentations. Il y a des territoires, des bassins de population qui ont expérimenté des dynamiques territoriales un peu structurantes. Donc, ça, voilà, c'est beaucoup une question de volonté politique et donc ça diffère selon les endroits et les institutions.
Merci Marjolaine. On va arriver progressivement sur la fin du plateau. Et effectivement, on est arrivé jusqu'aux questions politiques en partant des engagements individuels, puis les dynamiques collectives, puis les dynamiques politiques, du moi au nous et du nous au tout. On peut finir avec et vous. Et donc peut-être pour un dernier tour de table avant de rendre l'antenne, un petit mot sur avec quoi on repart, une impulsion, un conseil, quelque chose de très pratique pour que la salle puisse venir aussi se nourrir comme mot de conclusion.
Moi, je préconiserais le fait de s'approprier la démarche technocritique. On parlait de la question de comment aller chercher du monde. Moi, je trouve que se poser la question quand je réponds à un besoin de ben, en fait, est-ce que j'ai besoin de prendre les escalators ou l'escalier? Est-ce que j'ai besoin de faire ça avec un four instantané comme on pouvait l'avoir aujourd'hui ou un four solaire? Est-ce que j'ai besoin d'un balai ou d'un aspirateur? Enfin, c'est des questions un peu bêtes, mais je trouve qu'ils permettent de faire infuser en nous la question de la technocritique et de se dire « Ah oui, c'est vrai qu'en fait, ce que je veux, c'est répondre à un besoin plutôt qu'utiliser un outil. » Et du coup, ça permet de se distancier petit à petit de la technologie pour penser plutôt nos besoins et se retrouver dessus. Et je trouve que personnellement, c'est quelque chose d'assez chouette à faire.
Merci. Technocritique, techno-discernement. Merci Antoine.
Moi, je vais en conclusion essayer de répondre à la question que tu as posée tout à l'heure en disant est-ce qu'il faut déserter ou faire la révolution ou faire du business as usual. Et j'ai l'impression qu'il y a tout un panel en fait, entre les deux. Le business as usual qui nous amène dans un mur. Ceux qui disent en fait je reste dans le système et j'essaye de l'optimiser en faisant tout l'imaginaire des transitions, etc., optimisation, décarbonation de l'économie, etc. Absolument nécessaire, mais absolument pas suffisant. Puis tout un pan de personnes qui disent en fait la décroissance c'est la solution, la low-tech c'est la solution, et puis on va faire la révolution pour renverser ce système-là. Moi personnellement je pense que c'est trop bien, mais ça n'arrivera pas, parce que je pense que le système dominant est trop fort. Et donc dernière catégorie, et qui me plaît bien dans l'imaginaire des low-tech aussi, c'est ceux qui disent en fait le système capitaliste, vu qu'il utilise toujours plus de ressources, à un moment va se casser la gueule, et c'est dans ces moments, dans ces points de rupture, dans ces points de bascule, que l'allothèque peut apporter quelque chose. En tout cas, tous ces mouvements-là peuvent apporter quelque chose, peuvent apporter des solutions qui, à ce moment-là, dans les brèches qui existent, proposer des nouvelles façons de faire société ensemble. Et donc, je pense que ça peut être intéressant de réfléchir à comment est-ce qu'on fait advenir ces nouveaux systèmes au bon moment.
Réfléchir et s'engager. Merci Théobald. Paul ?
Pour le mot de la fin, moi je pense que, comme tu l'as bien dit Théobald, en fait pour qu'un monde low-tech fonctionne, il faut qu'on prenne du plaisir à faire de la low-tech. Du coup, avoir des projets communs, faire ensemble, des projets collaboratifs, etc. Et je pense que c'est comme ça qu'en agissant localement, on pourra créer un mouvement peut-être qui pourra proposer une solution alternative capitalisme actuel.
C'est clair, comme dans le documentaire, la conclusion, c'est finalement amusez-vous, quoi. Enfin, il n'y a rien de plus chouette que de réinventer des choses qu'on n'aime pas.
Merci Théobald et Marjolaine.
Je pense qu'il y a plein de manières de passer à l'action, de continuer de passer à l'action. Ce film, c'est un petit vent de fraîcheur qui invite au voyage, à la découverte. Merci beaucoup Thibaut et Antoine, et j'espère que qu'il y aura l'occasion de le projeter encore à plein d'autres occasions. Donc ça peut être aussi partager des liens de films tels que Voyage vers de nouveaux imaginaires avec ses proches, sa communauté. Ça peut être venir à des événements comme celui-ci. Merci à tous les organisateurs de cet événement et aussi pour avoir facilité la contribution à distance, qui peuvent aider à passer à l'action, à trouver de l'énergie. On peut agir tout seul dans son coin. Il y a le wiki du Low-Tech Lab qui est open source avec des tutoriels qui se veulent les plus accessibles possibles, comme des recettes de cuisine si on veut bricoler de son côté. Et puis, comme le disait Paul, de ne pas rester tout seul, de rejoindre des collectifs, des organisations. Il y a des ateliers, des formations, il y a plein de choses qui existent et qui sont ouvertes pour embarquer encore davantage et ensemble dans cette direction. Merci beaucoup.
Merci Marjolaine. Pour ce qui me concerne, je dirais que la contrainte est source de création. Et je vous remercie d'avoir participé ce matin. Donc on remercie Robin pour toute la partie technique.
Merci.
On remercie Stéphane et Justine et Claire pour ce qui concerne le Labo Friche, la Combinerie et la Cité des Transitions pour cet événement. Et puis merci à vous d'avoir participé, donc Stéphane qui vient de revenir, d'avoir participé à cette discussion. J'espère que ça vous a plu. On rend l'antenne sur La Forêt des Possibles et on vous invite à continuer à explorer la foisonnante proposition des 72 heures de l'écologie. Bon week-end.